États-Unis. Des millions de chômeurs, une catastrophe provoquée par la course au profit capitaliste. Nous publions ci-dessous la traduction d'un article paru dans le numéro 71 de juillet-août de Class Struggle, la revue du groupe trotskiste américain Spark. Après 2 ans de reprise économique officielle, 34 millions de personnes, soit 23% de la population en âge de travailler, sont sans emploi ou travaillent à temps partiel, souvent dans des emplois rémunérés au salaire minimum. Et ce n'est qu'un aperçu, à un moment donné, du nombre de chômeurs. Le chômage est beaucoup plus étendu. Au cours de l'année passée, près de la moitié des familles de la classe ouvrière ont eu, à un moment donné, au moins un de leurs membres sans emploi. Et tout porte à croire que le chômage va durer, peut-être s'aggraver. Certaines grandes entreprises ont démarré une nouvelle série de licenciements de masse. Cisco Systems, le géant de l'équipement des réseaux, a annoncé le licenciement de 6 500 salariés, soit 9% de son personnel. Goldman Sachs, le géant de la finance, a déclaré qu'il allait supprimer 1 000 emplois. Lockheed Martin, l'entrepreneur militaire, se propose de supprimer 6 500 emplois grâce à des départs négociés ou des licenciements. Et les États et les administrations locales annoncent de nouvelles séries de suppressions d'emplois presque chaque semaine, à ajouter aux 142 000 emplois qu'ils ont supprimés au cours des 6 premiers mois de l'année 2011. Une grande partie de la jeunesse ouvrière est complètement exclue du marché du travail, dans l'incapacité de trouver un emploi même au salaire minimum. Au printemps, quand la chaîne McDonald's a annoncé des recrutements, elle a été submergée par près d'un million de candidatures. Même les personnes d'âge moyen ne sont pas à l'abri de cette saignée. Plus d'un quart des hommes d'âge moyen sont actuellement au chômage ou travaillent à temps partiel et ne gagnent pas assez d'argent pour survivre. Ce chômage de masse n'est pas une catastrophe naturelle échappant au contrôle de l'humanité. C'est une catastrophe provoquée par la course capitaliste au profit. Des profits construits sur les suppressions d'emplois. En ce moment, dans un contexte de chômage catastrophique, les profits des entreprises progressent. Les marges de profit des 500 grandes entreprises suivies par Standard & Poor's ont atteint le plus haut niveau depuis 1993. Censée être à bout de souffle et en perte de vitesse face à la concurrence étrangère, l'industrie américaine a pourtant fait plus de 170 milliards de dollars de bénéfices en 2009 pour grimper jusqu'à 270 milliards de dollars en 2010. Joseph Lavornia, responsable économique américain à la Deutsche Bank, s'est exclamé, ouvrez les guillemets, « Nous assistons non seulement à une formidable remontée en forme de V des bénéfices des entreprises, mais aussi à la plus importante remontée des bénéfices jamais vus. » Fermez les guillemets. Les travailleurs ont payé de leurs emplois ce « entre guillemets formidable » rétablissement des bénéfices des entreprises. Pendant la récession elle-même, qui a officiellement duré de décembre 2007 à juin 2009, les patrons ont supprimé le nombre record de 7 millions d'emplois. Au plus haut des licenciements, entre janvier et mars 2009, les entreprises ont supprimé plus de 780 000 emplois par mois. Ce niveau de chômage dévastateur a été utilisé contre le reste des ouvriers et des employés pour extorquer plus de travail à chacun, souvent contre des salaires et des avantages sociaux moindres. En janvier 2009, juste au moment des pires suppressions d'emplois, les bénéfices des entreprises ont commencé à augmenter. Les économistes officiels nous disent que la reprise économique a commencé en juillet 2009. Mais au cours des 6 premiers mois de cette prétendue, entre guillemets, reprise, les patrons ont supprimé 1 million d'emplois de plus, tout en continuant à augmenter les cadences. Les licenciements et les cadences se sont nourris les uns des autres pour produire une accumulation croissante de bénéfices pour les entreprises. Début 2010, dans un contexte de production en hausse, les patrons ont cessé de licencier en masse. Mais ils n'ont réembauché que peu de travailleurs, forçant leurs salariés épuisés à effectuer le surcroît de travail. Après avoir supprimé des millions d'emplois dans la production pendant la récession, les entreprises n'ont réembauché que 130 000 travailleurs au printemps, alors que la production avait pratiquement retrouvé son plus haut niveau d'avant la récession. Cette pression considérable pour retirer de plus en plus de profits d'un nombre de travailleurs de plus en plus faible se reflète dans le fait que la croissance de la productivité américaine a doublé de 2008 à 2009, en pleine récession, puis encore doublé en 2010, selon l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE. Sur la croissance des bénéfices, Lynn Razer, l'économiste en chef de l'université de Pointe Loma Nazarene à San Diego, a souligné, ouvrez les guillemets, « Il est important de noter que les entreprises ont pu ramener la production au niveau d'avant la récession sans embaucher de travailleurs supplémentaires. Nous avons maintenant récupéré la totalité de la production perdue dans la récession, mais nous avons toujours 7,5 millions de travailleurs en moins. » L'augmentation des bénéfices des entreprises a été payée par la disparition d'emplois et l'augmentation des cadences. Ou, comme l'explique un article dans The Economist de décembre dernier, ouvrez les guillemets, les bénéfices doivent leur courbe en V en grande partie à la courbe en L de l'emploi. Fermez les guillemets. En d'autres termes, les bénéfices ont diminué puis sont rapidement remontés dans une courbe en V, tandis que le nombre d'emplois a diminué puis est resté bas dans une courbe en L. Enrichir les plus riches. Alors, qu'ont fait les entreprises de tous leurs bénéfices? Elles les ont distribués à cette couche infime de la population qui tient l'économie dans ses mains, les gens les plus riches du monde. En premier lieu, les entreprises ont fait ce qu'elles font toujours, transformer leurs bénéfices en dividendes dont la plupart vont à une infime minorité de gros actionnaires. Mais cette année, elles ont été particulièrement généreuses. Dans les trois premiers mois de 2011, les dividendes ont augmenté à un rythme record. JP Morgan Chase a quintuplé la taille de ses dividendes, une augmentation de plus de 3 milliards de dollars. Les sociétés ont également utilisé leurs profits pour racheter leurs propres actions, en faisant ainsi cadeau de milliards en plus à leurs plus gros actionnaires. Dans les trois premiers mois de 2011, les entreprises ont dépensé presque deux fois plus d'argent pour racheter leurs propres actions qu'à la même époque l'année dernière. Les grandes compagnies pétrolières ont ouvert la voie, riches des énormes bénéfices réalisés en escroquant les consommateurs sur les prix du carburant. Les dirigeants d'ExxonMobil se sont vantés auprès d'analystes de Wall Street d'avoir distribué, ouvrez les guillemets, plus de 7 milliards de dollars, fermez les guillemets, aux actionnaires pour le premier trimestre de cette année grâce à des augmentations de dividendes et des rachats d'actions, et ils ont dit projeter de répéter l'opération au trimestre suivant. ConocoPhillips a annoncé qu'il dépensera 15 milliards de dollars cette année pour le rachat de ses propres actions. Pour ne pas être en reste, Chevron a annoncé des plans similaires. Même les entreprises qui ne font pas de gros bénéfices ont augmenté les dividendes et les rachats d'actions en empruntant de l'argent pour le remettre à leurs gros actionnaires. Certaines sociétés ont tellement emprunté pour gonfler leurs rachats d'actions et d'augmentation de dividendes que Moody's a abaissé leur note de crédit, selon Businessweek du 26 mars. Leurs PDG ont littéralement enseveli ces sociétés sous une montagne de dettes pour satisfaire les exigences d'une poignée de riches actionnaires. Même après avoir prodigué tout cet argent aux actionnaires, les sociétés non financières avaient encore en caisse près de 2 000 milliards de dollars à l'automne 2010. Cela équivaut à 11% de leur actif total, le niveau le plus élevé depuis 60 ans. Et les grandes banques ont fait mieux encore. Tout cela montre à quel point la croissance des bénéfices a été prodigieuse. Président à ce pillage et cette dévastation au profit de quelques-uns, les PDG sont récompensés grassement. L'année dernière, la rémunération totale moyenne des patrons des 300 plus grandes entreprises américaines a dépassé 11 millions de dollars, selon le syndicat AFL-CIO. Dans les plus grandes sociétés financières, qui écrèment les profits et la richesse pour elles-mêmes, une palette de dirigeants a gagné d'énormes sommes d'argent en 2010. Le Wall Street Journal estime que la rémunération totale des dirigeants a atteint le niveau record de 149 milliards de dollars. Bien sûr, même en 2009, lorsque l'économie était proche de son point le plus bas, les banquiers de Wall Street s'étaient versés 140 millions de dollars. Lorsque les entreprises prétendent, entre guillemets, investir leurs bénéfices, elles les utilisent d'abord pour acheter d'autres entreprises. Au premier trimestre de 2011, les rachats d'entreprises se sont élevés à 330 milliards de dollars, une belle reprise après le krach financier qui avait vu l'assèchement complet des fonds consacrés aux rachats d'entreprises. Ces 330 milliards sont presque égaux à la somme investie par l'ensemble des entreprises américaines dans les usines, bureaux et équipements. Mais les rachats d'entreprises ne produisent ni valeurs supplémentaires ni nouveaux emplois. Au contraire, lorsque les entreprises s'emparent d'autres entreprises, cela se traduit généralement par des suppressions d'emplois. Dans le but d'obtenir un rapide retour sur leur argent, les artistes du rachat désossent souvent l'entreprise qu'ils achètent, la dépouillent de son contenu, abandonnent dans leur sillage les carcasses de bâtiments et d'usines autrefois productifs. Ces opérations financières enrichissent une poignée de riches actionnaires, de dirigeants et de banques qui financent les transactions alors que les travailleurs les paient de leur emploi. Quant aux investissements dans les usines et les équipements réels, les entreprises dépensent moins sur ce plan qu'elles ne l'ont fait depuis des décennies. L'investissement net, une mesure très importante de ce que les patrons réinvestissent dans l'économie productive, a atteint son plus bas niveau depuis les années 40. Au lieu d'investir pour se développer, les entreprises retirent une production de plus en plus importante des mêmes vieilles usines et équipements. Les usines qui tournaient avec une ou deux équipes fonctionnent désormais à plein régime. 3 équipes, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, horaires infernaux pour la main-d'œuvre, aggravation des risques pour la santé et la sécurité, conditions de travail dégradées et augmentation des fermetures d'usines. Les compagnies aériennes suppriment des dessertes, réduisent leurs capacités, font voler leurs avions complètement pleins et appliquent des tarifs beaucoup plus élevés. Les compagnies d'électricité ne remplacent pas les anciens équipements ni n'installent de capacités supplémentaires pour les pics d'utilisation, ce qui entraîne régulièrement des coupures de courant, des explosions et des incendies. En d'autres termes, les entreprises maximisent leurs profits au détriment des travailleurs et du reste de la population laborieuse confrontée aussi à ces vautours en tant que consommateurs. La course du capital pour davantage de profits au bénéfice de quelques-uns est pour toute la société un désastre qui aggrave toujours plus le fléau du chômage et ruine le niveau de vie de la classe ouvrière et d'autres couches de la population. L'action du gouvernement en faveur des plus grands voleurs du monde. Le gouvernement a aidé et encouragé les patrons à chaque étape. Lorsque le système financier américain s'est complètement bloqué en 2008, le gouvernement américain est intervenu et a renfloué les banques et autres entreprises financières. Peu importe que dans leur course folle pour accumuler toujours plus d'argent, ils aient été les coupables, ceux-là même qui avait provoqué l'effondrement en gonflant des bulles spéculatives, en utilisant des milliers de milliards de dollars à s'endetter. Le gouvernement a fourni aux banquiers 13 000 milliards de dollars, souvent en assumant leurs pertes. Les victimes de l'effondrement de la bulle immobilière, les millions de gens qui ont perdu leur maison et les millions d'autres qui ont perdu leur emploi n'ont rien obtenu. Les classes laborieuses sont maintenant aux prises avec la facture de ce sauvetage. Cet énorme transfert d'argent du gouvernement aux banques et aux autres secteurs du grand capital, voilà ce qui a gonflé les déficits budgétaires. Et toutes les propositions actuelles visant à réduire le déficit d'une manière ou d'une autre consistent à faire payer la facture aux travailleurs en prétendant qu'il s'agit d'égalité de sacrifice, entre guillemets. Non, cette austérité va imposer des sacrifices à la population laborieuse au bénéfice des riches. Même si le plan de sauvetage du système financier est à une échelle beaucoup plus spectaculaire, le gouvernement a toujours utilisé des impôts prélevés sur les travailleurs pour le bénéfice des banques, des grandes entreprises et de leurs riches propriétaires. C'est ce qu'il a fait depuis des années au système fédéral de retraite, Social Security, dont le fonds d'affectation spéciale est censé contenir 2 600 milliards de dollars en épargne retraite. En réalité, le gouvernement a régulièrement accaparé l'excédent et il l'a dépensé. Tout en prétendant maintenir ce fonds d'affectation spéciale pour la retraite future de dizaines de millions de personnes, il a utilisé ces milliers de milliards de dollars pour aider à financer les déficits budgétaires courants générés par les exonérations d'impôts, les subventions et les cadeaux accordés aux entreprises, ainsi que par le coût des guerres. Il a fait la même chose avec le fonds d'affectation spéciale de Medicare, la couverture médicale des personnes âgées, le fonds destiné aux autoroutes et tous les autres fonds constitués par des impôts affectés à un but précis. À la place de l'argent retiré de ces programmes, le gouvernement n'a laissé que des reconnaissances de dettes sans valeur. Maintenant, après avoir volé les milliers de milliards de dollars de l'argent des retraites, le gouvernement veut plus. La vaste campagne, soutenue à la fois par les démocrates et les républicains, soi-disant pour sauver Social Security et Medicare, n'est qu'une arnaque pour faire accepter à la population des réductions de prestations d'une manière ou d'une autre. Et dans quel but ? Uniquement pour que le gouvernement puisse mettre la main sur plus d'argent à destination des capitalistes. Au cours des dernières décennies, le gouvernement s'en est pris à certains des services les plus vitaux, y compris les services d'éducation, de santé publique, d'incendie et de secours d'urgence, les transports en commun, l'eau et les eaux usées, le déneigement, les ponts et chaussées, les parcs et loisirs, pour n'en citer que quelques-uns. Ces programmes sont souvent financés conjointement par le gouvernement fédéral, les gouvernements des États et les collectivités locales. Lorsque la crise a frappé, il y a presque 4 ans, les autorités à tous les niveaux se sont empressées de se surpasser les unes les autres pour supprimer autant de programmes vitaux que possible, pour satisfaire les demandes d'aides supplémentaires et d'allègements fiscaux des grandes entreprises et des riches. Ces coupes claires ne pouvaient qu'avoir des conséquences désastreuses pour la population. Dans de nombreuses villes, l'attente des véhicules de l'aide médicale d'urgence est maintenant si longue que les gens meurent avant l'arrivée des secours. Il y a tant de services d'urgence en moins que les hôpitaux submergés sont conduits à fermer leurs portes jusqu'à ce que l'affluence diminue, forçant les ambulances à aller d'un centre d'urgence à l'autre en quête d'un service ouvert. Les rues ne sont pas déblayées lors des tempêtes de neige et des gens meurent car les véhicules d'urgence ne peuvent pas passer. Avec la fermeture des postes de sapeurs-pompiers, les petits incendies se propagent à des blocs entiers avant l'arrivée des pompiers. Des lignes de bus sont supprimées tandis que les tarifs augmentent, laissant un nombre croissant de personnes sans aucun moyen de se rendre au travail ou à l'école. Comme les routes et les ponts sont laissés à l'abandon, des morceaux de béton atterrissent sur les voitures. On a laissé se rouiller les canalisations d'eau et d'égouts si longtemps que les eaux usées non traitées s'écoulent par moments dans l'approvisionnement en eau potable. Ouvrez les guillemets, faites bouillir l'eau du robinet avant de la boire. Fermez les guillemets. Ces dernières années, le système éducatif et son budget annuel global de 600 milliards de dollars sont devenus la cible principale des voleurs capitalistes. Sous le signe de la, entre guillemets, réforme scolaire, le gouvernement a mis en œuvre une vaste campagne de suppression des crédits des écoles. Prétendant se débarrasser des entre guillemets, « mauvaises » écoles, les conseils scolaires ferment des bâtiments scolaires et se débarrassent des écoles de quartier, mais ne les remplacent pas. Au lieu de cela, ils rassemblent plus d'élèves dans moins de bâtiments et augmentent la taille des classes. Ils visent ceux qu'ils appellent les entre guillemets, « mauvais enseignants », qui se trouvent être les plus expérimentés, qui connaissent les élèves, les parents et les quartiers, mais sont aussi ceux qui touchent les plus hauts salaires. En les remplaçant par de nouveaux enseignants, inexpérimentés et moins payés, les conseils scolaires coupent dans le budget des écoles. Les coupes dans les services publics effectuées par le gouvernement ont déjà eu un impact dévastateur sur la population. Et chaque coupe budgétaire, dans les services publics et les services sociaux, dans l'éducation et les soins de santé, entraîne aussi des destructions d'emplois. Au lieu d'utiliser ces vastes ressources pour embaucher en période de crise de l'emploi, le gouvernement aggrave le chômage. Depuis août 2008, 577 000 emplois du secteur public ont été supprimés. Et ce n'est pas fini. Même un journal de la bourgeoisie comme le New York Times estime que si l'emploi du secteur public avait tout simplement continué à croître au même rythme que la population, il y aurait eu 500 000 d'emplois créés lors des deux dernières années. Ainsi, les coupes budgétaires ont coûté plus d'1 million d'emplois au secteur public. Les patrons ont littéralement détruit le niveau de vie de la classe ouvrière, pris aux travailleurs leurs emplois, leurs rémunérations, leurs avantages, et détruit des services vitaux pour les quartiers et les collectivités. Tout cela pour que les plus riches du monde puissent le devenir encore plus. Voilà le bilan du capitalisme aujourd'hui. Chaque fermeture d'école, chaque suppression de services, chaque suppression d'emplois est une autre mise en accusation de ce système qui tient aujourd'hui la société dans son étau mortel. Assez.